Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue, on vous informe et vous avez la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité, dans 30 minutes, la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne, mais d'abord le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Juan Gomez, et à tout de suite, et avant de donner la parole aux auditeurs, nous serons à Los Angeles dans ce journal, dans le quartier d'Altadena, quartier populaire où les habitants ont souffert encore plus qu'ailleurs des incendies dévastateurs des 10 derniers jours. Au Proche-Orient, accord de cessez-le-feu bel et bien annoncé par Israël ce matin, qui prévoit la libération d'otages israéliens et qui prévoit l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza, Gaza qui manque de tout, vous l'entendrez. Au Sénégal, grand oral pour le président Bassirou Diomaye Faye devant les représentants de la justice du pays. Enfin, un mot de football et la performance majuscule de l'Ivoirien Amad Diallo, auteur d'un triplé avec Manchester United hier soir. Comme premier en début de ce journal, à Los Angeles, où les victimes des incendies tentent de reprendre une vie normale. Les feux sont quasiment maîtrisés et les sinistrés mesurent l'étendue des dégâts après 10 jours d'incendies qui ont provoqué la mort d'au moins 24 personnes. Direction le quartier d'Altadena, sur les hauteurs de la ville, quartier modeste où s'est rendu notre envoyé spécial Arim Lipol d'Altadena, quartier de locataires à la forte population d'immigrés qui retrouve une localité aux allures de champs de ruines. Reportage donc d'Arim Lipol.
Le quartier d'Altadena a des allures de champ de bataille. Un tiers des maisons a été réduit en cendres. Devant les ruines, des carcasses de voitures brûlées témoignent de la violence des flammes. Ces feux ont détruit aussi l'appartement de Selma, afro-américaine.
Quand les incendies ont commencé dans les montagnes, je n'aurais jamais cru qu'ils descendraient aussi vite. On a tout perdu. Mon quartier ressemble à un endroit où une bombe aurait explosé. C'est une tragédie. Des gens sont morts et on ne sait même pas encore combien.
Comme beaucoup d'habitants d'Altadena, Selma a trouvé refuge dans des centres d'hébergement provisoires. Le sien a été mis en place par la Croix-Rouge et accueille actuellement plus de 400 personnes, explique Diana Ramirez, chargée de communication.
Altadena, c'est une communauté très vulnérable. Il y a des Latinos, des Afro-Américains, des Asiatiques, des personnes âgées. Beaucoup ont besoin de soins médicaux. En fait, toutes les personnes qui sont ici n'ont aucun autre endroit où aller. Ici, au moins, elles sont en sécurité. Tout le monde est le bienvenu, quelle que soit sa nationalité ou son statut, légal ou non.
Pour Selma, ce centre est une solution d'urgence. Elle a envie de partir, mais où, elle ne sait pas.
Mon appartement, c'était mon premier chez moi depuis 10 ans, vous savez, après mon divorce. Et en plus, mon assurance habitation a annulé mon contrat il y a 1 an et demi. Ils ont fait ça avec beaucoup de gens ici. C'est bizarre, non ?
Elle conclut amère.
Nous avons tout perdu. On n'est pas comme ceux qui ont pu se payer une chambre au Hilton. Nous, on est ici, dans cet abri provisoire.
Arnie Pot, Los Angeles, RFI.
Et autre grand titre ce matin de l'actualité internationale, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, annoncé hier par le Qatar et par les États-Unis, annoncé ce matin par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ne manque plus que le feu vert du cabinet de sécurité, le gouvernement israélien qui se réunit tout à l'heure, et un accord dénoncé par ailleurs comme irresponsable par l'extrême droite israélienne. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui appelle d'ailleurs à couper toute aide humanitaire pour Gaza si l'accord est appliqué. Une aide humanitaire qui doit progressivement entrer dans le territoire dans les jours à venir. Aide totalement insuffisante pour faire face aux besoins. Les Gazaouis manquent de tout, estime Karim Nuster, elle est coordinatrice médicale de Médecins Sans Frontières. Elle s'est rendue plusieurs fois à Gaza. Pour elle, l'urgence est avant tout de fournir des abris à la population.
Il faut absolument que les gens aient des structures habitables, des tentes qui puissent résister aux intempéries. Les hivers à Gaza sont vraiment difficiles. Il fait très très froid. On a déjà vu plusieurs personnes, des enfants, des bébés mourir de froid. Pour moi, ça, c'est une des priorités à faire rentrer dans Gaza. Et puis ensuite, il y a aussi tout ce qui est eau et assainissement, faire rentrer du matériel pour pouvoir réparer tout ça de manière urgente, parce qu'on est quand même dans une situation critique. Et puis, évidemment, tout ce qui est médical, mais le premier truc que je ferai rentrer, c'est vraiment un habitat, quoi, la capacité pour les gens de pouvoir se mettre à l'abri la nuit et de dormir sur un matelas et de ne pas avoir froid. Ça me semble essentiel.
Des propos recueillis par Muriel Paradon, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, s'est lui dit confiant quant à la mise en œuvre du cessez-le-feu, qui doit débuter dimanche pour une durée de 6 semaines. Les pays du G7 qui appellent les différentes parties à assurer une pleine mise en œuvre de la trêve. Trêve effective au Liban voisin, où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est venu s'en assurer. Une visite de solidarité, selon les Nations Unies. Il doit rendre visite au casque bleu de la FINUL dans le sud du pays. Le cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre entre le Hezbollah et Israël a été plusieurs fois violé. Le Liban où seront aussi Emmanuel Macron, le président français qui est arrivé ce matin pour rencontrer les nouvelles autorités, à savoir le nouveau président Joseph Aoun et le nouveau Premier ministre Nawaf Salam.
Dakar, 92 FM.
RFI, il est 8h05 à Dakar, le Sénégal, où Bassirou Diomaye Faye avait rendez-vous avec les différentes cours et tribunaux du pays. Le chef de l'État préside une cérémonie de la justice sénégalaise. C'est la première fois que ça lui arrive depuis sa prise de fonction en mars dernier. Bassirou Diomaye Faye, qui a promis d'améliorer le fonctionnement de la justice de son pays durant son mandat. Correspondance de Léa Lisa Vesteroff.
Renforcer l'indépendance de la justice et la rapprocher des citoyens. Hier encore, Bassirou Diomaye Faye a rappelé cette double injonction aux acteurs du système judiciaire.
Les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. Chaque juge, dans l'intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l'éthique et à la vérité et dire le droit sans céder à l'injustice. Pour que plus jamais la récente histoire qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise.
Le président du Sénégal se sait très attendu sur le sujet de l'indépendance de la justice. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats le lui a rappelé hier. Rappelé aussi les 30 recommandations qui avaient été faites par la société civile à l'issue des assises de la justice en mai, comme celle d'avoir une cour constitutionnelle avec des juges qui ne seraient plus nommés par le président. Des réformes qui attendent désormais d'être adoptées. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan, incarcéré depuis l'été 2023, a de nouveau été condamné dans une affaire de corruption. Condamné à 14 ans de détention, son épouse, Bushra Bibi, elle aussi était condamnée à 7 ans de prison. Elle a été arrêtée ce matin. Dans l'océan Indien, à présent, un peu plus d'un mois après le passage du cyclone Chido, les élèves maorés vont reprendre le chemin de l'école à partir du 27 janvier. Annonce faite par la ministre de l'Éducation française, Elisabeth Borne. Mayotte, où le bord des routes déborde toujours de déchets et de détritus en tout genre. Les entreprises privées ont d'ailleurs été réquisitionnées pour aider à évacuer les déchets. Reportage à Mayotte de Justine Rodier.
Dans la commune de Pamandi, en Petite-Terre, les ouvriers de Saïd Rafiki s'affairent pour ramasser les débris entassés sur les bords des routes.
Déchets ménagères, déchets verts, ramassage de tôles, tout ça là. En fait, tout ce qui est concerné par rapport au ramassage, nous on fait.
Normalement, ils gèrent une entreprise de construction, mais face à l'ampleur des dégâts causés par Chido, l'intercommunalité a réquisitionné une trentaine d'entreprises privées comme la sienne pour un total d'€1,5 million. Shamsia Mohamed est l'élu en charge de l'environnement.
La priorité, c'était de dégager les grands axes parce que les routes, il n'y avait plus de routes. On avait 30 fois plus que ce qu'on a habituellement. Là, on retrouve une situation à peu près normale, à peu près.
Le contrat passé avec les entreprises se termine le 20 janvier, mais la situation est loin d'être réglée. Lorsque la chaussée est déblayée, les habitants la remplissent en évacuant les débris qu'ils stockent encore chez eux. De manière générale, la gestion des déchets est complexe à Mayotte, comme en témoigne cette habitante du quartier de la Vigie.
On a une réserve d'eau et on avait un amas de détritus qui s'entassait. Il y a plein de rats et de souris. C'était déjà comme ça.
Les poubelles de tri sont collectives et donc loin des habitations et peu utilisées. L'île ne possède qu'un seul site d'enfouissement pour les ordures ménagères. Les déchets plastiques et électroniques sont envoyés en Afrique du Sud ou à Madagascar. Justine Rodier, Petite Terre, RFI.
Dans l'Hexagone, une première motion de censure évitée par François Bayrou. Nommé fin décembre, le Premier ministre était menacé hier à l'Assemblée nationale et ce 2 jours après son discours de politique générale. Motion portée par la gauche, mais pas par le Parti socialiste. Résultat, 131 voix pour. Il en fallait 288 pour renverser le gouvernement, qui s'offre donc un peu de répit. François Bayrou qui lance par ailleurs ce vendredi la concertation promise sur la réforme des retraites. On termine par un mot de football et par cette performance XXL de l'Ivoirien Matt Diallo, qui a sauvé Manchester United à lui tout seul hier soir à Old Trafford. Des Red Devils menés 1-0 par la lanterne rouge Southampton jusqu'à la 81e minute. Moment choisi par ce diable d'Amad Diallo pour sortir de sa boîte, le natif d'Abidjan, auteur d'un triplé en 10 minutes pour une victoire 3-1 des Mancuniens. La première en championnat depuis plus d'un mois. Un autre beau diable prêt à bondir de sa boîte. Revoilà Juan Gomez pour rappel sur l'actualité.
Bon, moi, je ne suis pas très doué avec mes pieds.
vous avez la voix, vous avez le micro, c'est déjà pas mal.
Merci Juan. Martin Guez de nous avoir informé. L'info en continu, c'est sur RFI.fr. Reste avec nous, il est 8h10 en temps universel et dans 30 secondes, comme tous les matins, vous avez la parole.